Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce déjà dernier dimanche de janvier. Vous allez bien, Thomas ?
C'est vrai, c'est dingue, ça passe trop vite. Bonjour Sidonie.
Ça filoche.
En pleine forme, ça veut dire qu'il faut profiter du temps présent. Voilà le message, la philosophie du jour.
Comment ça va ? Je vais aller faire un tennis alors.
Comment ça va,
la
bretonne sans accent ?
Mais si, mais ça c'est vous qui le dites, parce que j'ai un accent, comme tout le monde.
Comme moi. Alors.
Comme tous les Français, comme vous.
Mais oui, on va vous dévoiler ça et puis on va vous raconter aussi les secrets des espionnes des services secrets français, américains, russes ou encore israéliens. Elles nous font fantasmer parfois, mais comment travaille-t-elle vraiment ? Réponse dans la seconde partie de l'émission.
Et tout de suite, on met l'accent sur les accents régionaux.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
J'y comprends rien, hein. Je sais très bien lire, mais les numéros, ça m'embrouille.
Thomas Hugues.
Pourquoi les partir avec les meubles ?
Parce que j'ai peut-être les chiens.
Pourquoi donner ces meubles à des chiens ?
Sidonie Bonnec.
Il n'a pas donné à des chiens, ces meubles, il est parti avec.
Les siens ?
Ouais, les chiens, je joue.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonsoir, Michel Feltin-Palace.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir, bienvenue Michel.
Vous êtes rédacteur en chef à l'Express. Vous avez été longtemps spécialiste des régions dans ce magazine. Les accents, c'est d'abord une histoire familiale. Pourquoi ? Racontez-nous.
Oui, pour moi, parce que mon père était parisien, ma mère était béarnaise et peut-être est-ce que à cause de ça je me suis intéressé à cette question.
Ça fait quelle sauce tout ça ?
Ça faisait une sauce très séparée, c'est-à-dire que quand ma mère était à Paris, on lui disait qu'elle avait un accent terrible, mais quand mon père descendait dans le Béarn, dans les Pyrénées béarnaises, c'était lui qui avait un accent. Et ça m'a frappé et j'ai compris à ce moment-là qu'effectivement l'accent c'est l'autre, que nous avons tous un accent, que l'accent c'est simplement la manière de prononcer une langue et que contrairement à ce que l'on croit, vous et moi, il est faux de dire que nous n'avons pas d'accent, nous avons un accent qui est différent de celui des autres, mais qu'en fait en France ça ne se passe pas comme ça et que certains sont réputés avoir un mauvais accent et les autres sont censés en avoir un bon.
Ça on va détailler cette question et notamment les histoires de ségrégation, parce que c'est le terme qu'il faut employer pour parler des conséquences de certains accents. Ça veut dire que vous, quand vous retournez dans le Béarn, région d'origine de votre maman, vous avez une pointe d'accent du Béarn qui vient ou pas ?
Non, parce que moi j'ai grandi en région parisienne. D'accord. Donc j'essaie de rester fidèle à ce que je suis et ne pas imiter, je ne saurais pas le faire. Peut-être que si je vivais là-bas définitivement, on finirait par souci d'intégration, par prendre l'accent de la région dans laquelle on habite, mais moi non.
Sylvia Pinel, dont on parlait il y a un instant, elle vient du Tarn-et-Garonne, de Montauban, pour être précise. Pas facile à dire quand on est enrhumé. Montauban, merci.
Oui. Elle fait partie, du soir.
Ouais, dis donc, elle fait partie des personnalités politiques nationales qui ont gardé leur accent. Elles ne sont pas nombreuses, ces personnalités, à l'assumer, vivre avec.
Elles ne sont pas nombreuses parce que nous vivons dans un drôle de pays où on est réputé être sérieux que lorsque l'on parle avec l'accent que nous avons, vous et moi, si je puis dire, et qu'une personne qui arrive avec un accent méridional ou un accent vosgien ou un accent du Nord est réputé dire des bêtises. C'est un raisonnement qui ne tient pas, évidemment, mais de fait, il fonctionne. Et Sylvia Pinel, je peux vous dire quelque chose. Par exemple, je vais dénoncer à un confrère, ça ne se fait pas, mais tant pis. J'ai lu dans le journal de Le Monde, qui passe en France pour le journal de référence, la phrase suivante. Sylvia Pinel a eu le tort de se présenter comme la fille d'un petit village du Tarn-et-Garonne. Si l'un de vous peut m'expliquer en quoi c'est un tort de venir d'un village du Tarn-et-Garonne quand on se présente à une élection présidentielle, vous me le dites. Je peux comprendre qu'on dise que Sylvia Pinel dit des bêtises, qu'elle a tort sur la question économique, mais avoir tort de venir d'un village qui vient de quelque part en France, c'est évidemment absurde, mais ça transparaît, ça transcrit l'idéologie de l'accent en France. Il y a un bon accent qui est le nôtre et puis le mauvais accent pour tous les gens qui parlent différemment. C'est absurde et c'est une ségrégation de fait.
Et alors parfois les politiques ils s'adaptent. Ils ont un accent quand ils sont à Paris et puis un autre quand ils reviennent dans leur région d'origine. Démonstration avec le Petit Journal, on est fin avril 2013 sur Canal. Ils prennent Marie-Arlette Carlotti qui était à l'époque ministre de la lutte contre l'exclusion et pour les personnes handicapées, ils la prennent en flagrant délit de dissimulation d'accent. Regardez.
Le président de la République a demandé au Premier ministre d'annoncer toute une série de mesures pour lutter contre les paradis fiscaux.
Et maintenant, écoutez-la le lendemain dans la matinale de Canal, spécial IAM, donc spécial Marseille, donc.
Et elles ont besoin, elles aussi, d'une grande ville pour se développer. On en a assez de l'image qu'on montre, et puis au quotidien, les Marseillais sont moins heureux, on ne veut pas le dire quand on est à Paris.
Hein. Alors, c'est bluffant, hein. C'est pour ça qu'on a repris cette séquence du Petit Journal, époque Yann Barthès. Il y en a beaucoup, des personnalités comme ça, qui s'adaptent, on va dire.
Non, il y en a peu, mais je voudrais presque défendre Marie-Arlette Carlotti. Oui. Elle a tort, évidemment, de faire ce qu'elle fait, mais il faut comprendre pourquoi elle le fait. En France, pour réussir socialement, il faut abandonner son accent quand on a l'accent qui n'est pas l'accent standard. Voilà. Et donc, c'est une femme qui n'a pas fait une carrière exceptionnelle en politique. Elle a été ministre, c'est formidable et tout ça, mais elle n'est pas suffisamment sûre d'elle-même pour assumer son accent. Et elle pense qu'en gommant son accent à Paris, quand elle défend un dossier ministériel, elle va être prise davantage au sérieux. Et je trouve ça très révélateur du fonctionnement de notre pays. Pour dire quelque chose de sérieux, il faut parler d'une certaine manière. Je voudrais vous citer une phrase d'un grand philosophe qui s'appelle Jacques Derrida, qui disait la chose suivante. L'accent, et avant tout le fort accent méridional, me paraît incompatible avec la dignité d'une parole publique. On vit dans un drôle de pays où vous n'êtes pas jugé toujours sur la qualité de ce que vous dites, mais sur l'accent que vous utilisez pour le dire. C'est absurde. Je vous cite un grand philosophe reconnu, Jacques Derrida, mais il était capable de dire des bêtises, ce grand philosophe. La preuve, et c'est révélateur, et Marie-Arlette Carlotti, elle subit cette pression, et donc elle ne l'a pas assumée. Et donc à Paris, elle parlait avec l'accent standard, et à Marseille, avec l'accent de Marseille.
Donc l'accent, c'est un vrai outil de ségrégation.
C'est un outil de ségrégation sociale. Il y a...
Ça porte un nom d'ailleurs, j'ai appris ça en préparant l'émission, alors, la glottophobie. J'adore apprendre des nouveaux noms.
Voilà, alors c'est drôle, un sociologue un sociolinguiste qui a mis ce nom-là en avant. En fait, il a voulu faire un parallèle avec xénophobie, judéophobie, homophobie.
Ou gynophobie. Oui. C'est la réalisatrice Lisa Azuelos qui a créé ce mot pour dire toutes les violences faites aux femmes.
Ah d'accord, voilà. Pardon, je ne le connaissais pas.
La gynophobie.
Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que pour la glottophobie, c'est que vous n'êtes pas jugé sur ce que vous dites, mais sur la manière dont vous le dites. Donc vous n'êtes pas jugé en fonction de vos qualités sur des critères précis, mais en fonction de ce que vous êtes. Et donc, et ce qui est particulier en France, c'est que ça ne choque plus personne. Ça ne choque pas encore personne, contrairement et heureusement au racisme ou à l'homophobie.
Enfin, à la télévision, quand même, il y a une niche pour les accents, les émissions culinaires, par exemple avec Cyril Lignac.
Ça va renforcer le goût, en plus.
D'accord.
C'est bien d'avoir la vraie matière, comme ça. Allez, ma mercotte. Là, il est bien cuit, mercotte, parce qu'il est bien croustillant.
D'accord.
Puis là, cette couleur dorée, mais là, on va la laisser refroidir.
D'accord.
Est-ce qu'on peut imaginer, Michel Feltin, à Palace, un présentateur de JT avec un accent?
Oui, le simple fait de poser la question, c'est révélateur. Eh oui. Voilà, parce que
c'est parce qu'on est observateur.
Mais non, mais bien sûr. En France, tout ce qui est jugé digne est censé avoir l'accent standard. Donc, un présentateur du 20h avec un accent différent, non. L'accent, c'est bien pour la cuisine, c'est bien pour le rugby, c'est bien pour la météo, parce que c'est pas très sérieux. Il y a eu une exception, et je le dis.
Ça fait terroir.
Oui, mais ça fait peuple et ça fait vulgaire, pour dire les choses comme elles sont perçues. Le 20h, c'est sérieux, on ne peut pas avoir un accent pour le présenter. C'est évidemment stupide. Il y a eu une exception et c'est RTL qui l'a fait. C'est Jean-Michel Apathy qui a été le premier journaliste à se voir confier une rubrique dite sérieuse, la politique, malgré, si je puis dire, un accent du Sud-Ouest.
Oui, alors d'où viennent nos accents? De quand datent-ils? On a encore plein de questions de curieux pour notre invité. Restez avec nous sur RTL.
Dans un instant, retour de la curiosité sur RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On sillonne la France en écoutant ses accents sur RTL grâce à notre invité Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef à L'Express. On le disait, les accents de nos régions, ils sont à la fois synonymes de fierté, d'identité et à la fois de ségrégation. Est-ce qu'il est possible de les quantifier, ces accents?
Combien il y a d'accents en France?
Alors, selon les estimations que j'ai lues, il y aurait 15 millions de personnes à... Alors, je redis, il y a 60, nous sommes 65 millions de Français, 65 millions de Français parlent avec un accent. 50 millions parleraient avec l'accent standard, celui que nous utilisons, et 15 millions de personnes utiliseraient un autre accent.
Par exemple, à Marseille, on en compte plusieurs des accents.
Oui, alors c'est
difficile. C'est des tonalités, hein, voilà, c'est de la musique quasiment.
Exactement, c'est de la musique. Alors je ne suis pas suffisamment.
Vous n'avez pas l'oreille absolue?
Non, pas du tout, donc je ne saurais pas faire ça.
Ensuite, mais alors ce serait quoi les familles d'accents à Marseille?
Alors à Marseille, par exemple, vous avez l'accent que l'on a tous en tête dans les films de Pagnol, donc l'accent du peuple marseillais. L'accent de la bourgeoisie marseillaise va être un peu atténué parce que les bourgeoisies dans toutes les villes de province cherchent à singer ce qui se fait à Paris. Pour mieux s'intégrer, pour montrer qu'elle ne fait pas partie du peuple, mais elle garde un petit accent. Puis vous avez l'accent des quartiers nord de Marseille, des quartiers d'immigration, où les gens ont un accent à la fois venant influencé par l'Afrique du Nord et teinté de Marseille. On ne parle pas dans les banlieues de Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, comme on parle dans les quartiers de Seine-Saint-Denis.
Ouais. Alors on va faire un peu d'histoire et de sémantique. On adore l'origine des mots, le mot accent. D'où il vient et que signifie-t-il?
Alors ça vient du latin ad cantum, je ne sais pas si je le prononce bien, ce qui veut dire pour le chant. chant.
Pour le chant.
Pour le chant, pour chanter, hein, ouais. Parce qu'on n'entend pas le T à l'oral, en tout cas quand on parle comme moi.
Voilà, oui, donc pas ça montre le CHAMP, voilà. C'est ça que vous voulez dire.
pour le chant, pour et chanter. Donc ça montre bien que c'est une question de tonalité, de musique. Hein. Je pense que des gens qui seraient pointus de manière scientifique pourraient analyser ça très bien. Et donc le mot accent veut dire cela.
Sur quoi ça repose, un accent? Si on devait un petit peu le décortiquer.
Oui, alors en fait. C'est très simple. Personne ne s'étonne qu'un Anglais qui parle français parle avec un accent anglais. Eh bien, il faut comprendre qu'en France, historiquement, la plupart des Français ne parlaient pas français. La plupart des personnes vivant en France ne parlaient pas français, mais parlaient des langues différentes. Certains parlaient le basque, d'autres le breton, d'autres l'alsacien. Et donc, ces personnes, quand elles se sont mises à parler français, ont parlé avec l'accent de leur langue d'origine. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'un Provençal parle avec un accent provençal ou un alsacien avec un accent alsacien. C'est le même phénomène.
En préparant l'émission, on est tombé sur un mot utilisé par les linguistes. Alors, il a l'air très chouette, ce mot, mais on ne sait pas exactement comment le prononcer. Vous allez nous aider. Un skibolette, oui. Ou un chibolette?
Oui, alors je peux pas exactement vous dire comment on le prononce. C'est un mot réservé à un certain milieu. Ça peut être du jargon professionnel.
Oui.
Par exemple, un chef en cuisine, c'est le chef cuisinier. Voilà, c'est un jargon professionnel. Un papier dans notre métier de journaliste, c'est un article. Voilà, c'est du jargon professionnel. Et ça peut être du français régional. Par exemple, dans le Sud-Ouest, au lieu de dire pain au chocolat, on dit chocolatine.
Ah bah oui.
C'est du français. Donc c'est du français régional.
Moi, je suis arrivé à Bordeaux, j'avais 11 ans.
Oui.
Et j'ai évidemment demandé un pain au chocolat dans la boulangerie, on va regarder d'un drôle d'air.
Voilà,
j'étais le parigot qui débarquait.
Attendez, moi je suis arrivée à Paris il y a 15 ans, j'ai demandé un café au lait, on m'a dit quoi, un café au lait? Un café crème, madame. Voilà.
Donc on est tous des provinciaux qui débarquent.
Et je signale un régionalisme parisien, quand on dit dîner, pour nous on entend manger le soir, or dîner c'est le midi.
C'est
du français régional, dîner. Bien
notamment
sûr.
En Provence. Bien sûr. Les accents régionaux, Michel Feltin Palace, ils sont aussi un témoignage de notre histoire. Alors, il faut expliquer, moi, je fais pas mal de mots croisés, il y a toujours la langue d'oc et la langue d'oïle. Alors, c'était quoi la séparation langue d'oc? C'était le sud?
Oui, la langue d'oc, c'est le sud, et la langue d'oïle, c'est au nord. Il faut voir qu'en France, on parlait des langues d'origine différente.
Oui.
Vous avez les langues latines, langue d'oc, langue d'oïle, mais aussi le corse et le catalan. Vous avez des langues, une langue celtique qui est le breton. Vous avez des langues germaniques, l'alsacien, le flamand, et vous avez une langue, je ne vais pas rentrer dans le détail, pré-indo-européenne, qui est très très ancienne, le basque. Voilà.
Ouais.
Quand les Romains sont arrivés en France, nos ancêtres parlaient soit gaulois, soit basque, dans l'actuelle Aquitaine. Tout le monde s'est mis à peu près à parler latin. Enfin, une grande partie des gens se sont mis à parler latin.
Donc c'est le début d'une première uniformisation.
Voilà. Alors, mais il y a eu une imbrication avec la langue auparavant, et puis ces langues ont évolué, et puis il y a eu l'invasion des Francs au 5e siècle, qui était très fort dans le nord de la France. Et donc les langues d'oïle, si vous voulez, c'est du latin qui a été très marqué par l'influence des Francs, alors que les Francs étaient très peu nombreux dans le sud de la France. Et donc le latin qu'on parlait au sud de la France est resté plus proche du latin d'origine, a été moins influencé par les Francs et le Germain. Et donc ces langues se sont séparées. C'est très arbitraire, hein, ce qu'on appelle des langues différentes. Donc,
mais les accents d'aujourd'hui, ils descendent directement
bien
de
sûr,
ces langues différentes?
Parce que mes ancêtres qui parlaient béarnais, donc c'est une des langues d'oc du sud de la France, ils se sont mis à parler français à partir d'une langue différente. Et donc ils ont transmis leur intonation de leur langue d'origine dans le français. Je vous dis, comme un Anglais parle français avec un accent anglais ou un Allemand parle français avec un accent allemand. Tous nos ancêtres, les accents, si vous voulez, c'est les fantômes des langues quasiment disparues que sont les langues régionales. C'est ça qui reste. Les langues ne sont pas encore perdues et on peut les sauver. Je pense qu'on doit les sauver. Mais voilà, ça traduit ça.
C'est joli comme expression. Les fantômes des langues anciennes. On va raconter comment le français s'est imposé. On est en 1760. En France, il y a 25 millions d'habitants. Combien parmi eux parlent français?
Alors, il y a des estimations, mais on estime qu'au XVIIIe siècle, un Français sur cinq seulement parlait français. C'est-à-dire que quatre Français sur cinq parlaient une autre langue. Et ça va durer, je pense, ce chiffre-là. Les estimations ne sont pas précises, il n'y avait pas de recensement précis, mais jusqu'au XIXe siècle, et ça va petit à petit évoluer, trois Français sur quatre au XIXe siècle. Et on peut dire que c'est quasiment historique. En France, aujourd'hui, quasiment tout le monde parle français. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Jamais arrivé dans l'histoire.
Il paraît que le français le plus pur, c'est celui que l'on parle au bord de la Loire, en Touraine. Mais d'où vient cette idée? Réponse tout de suite sur RTL.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Ils peuvent se permettre de livrer rendu en France à 2,50 francs. Avec les frais d'approche, nous, on n'a pas peur.
RTL.
Une bonne tasse de café est une tasse à demi-pleine.
La curiosité est un vilain défaut.
Verse son lait 2 fois par jour, qui lui est pesé, inscrit à son compte. Alors la totalité du lait fromager est traité.
Thomas Hugues.
On parle dialecte, mais 3/4 des Alsaciens, surtout à Strasbourg, un peu plus loin, ils parlent français.
Sidonie Bonnec.
La curiosité, c'est tous les soirs, du lundi au jeudi, de 20h à 22h en direct sur RTL. Et ce soir, c'est un petit tour de France que l'on vous propose. Un tour de France des accents, vous l'avez compris. Marseille, la Normandie, le Jura, l'Alsace, dans la mise en onde de Sébastien. Notre guide ce soir, c'est le journaliste Michel Feltin-Palas, qui est rédacteur en chef à L'Express. Donc grâce à vous, on a appris qu'au milieu du 19e siècle, il y avait un quart de la population française qui ne parlait pas le français, mais une langue régionale. On a vu que l'accent... Ben, y en a partout en France, tout le monde a un accent, mais qu'il est encore trop souvent synonyme de ségrégation. Tiens d'ailleurs, un exemple. Extrait d'un documentaire diffusé il y a quelques mois sur France 3, des cours pour gommer son accent avec des jeunes comédiens marseillais.
On va travailler sur le son « en » et sur le son « un », d'accord ? C'est pas « en » et « an », c'est « un » et « en ». On va commencer avec Johan.
Papa boit dans les pins. Papa peint dans les bois, papa boit et peint.
Voilà, ce doc signé Vincent Desombres, diffusé sur France 3. Michel Feltin-Palas, c'est un handicap pour un comédien, un accent ?
Oui, de fait, c'est un handicap. Nous sommes dans un pays où on considère qu'une partie de la population n'a pas accès à certains métiers en fonction de la manière dont elle mettre des intonations à la langue française, même si elle parle parfaitement bien, même si dans le cas d'un comédien il incarne parfaitement le rôle, non, on lui dira qu'avec l'accent qui est le sien, il n'est pas possible de faire sa carrière. C'est vrai dans notre métier de journaliste, surtout dans l'audiovisuel, mais c'est vrai également, je connais des agrégés de lettres classiques à qui on a dit qu'avec leur accent de Marseille, ils ne pouvaient pas imaginer être agrégés de français.
Bon, Michel Galabru, on lui a jamais dit de prendre des cours pour gommer son accent apparemment.
Non, mais ce sont des exceptions. Ouais. On peut trouver des exceptions. Ouais. Prenez la règle. J'ai enquêté dans des écoles de journalisme de Toulouse, où on apprend aux apprentis journalistes à adopter l'accent standard, à changer d'accent, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Mais c'est une forme d'appauvrissement au bout d'un moment.
Mais évidemment. Nous sommes dans un pays qui défend la diversité culturelle dans le monde, mais qui s'emploie à la gommer sur son propre sol. C'est vrai des accents, c'est vrai des langues régionales dont le statut est pitoyable. Imaginons que l'on fasse avec le français au Québec ce que l'on fait en France avec le breton, le provençal, l'alsacien ou que sais-je, ce serait un scandale et la France condamnerait l'action du Québec. La France fait largement pire en France.
Michel Feltin-Palas, où trouve-t-on l'accent français le plus neutre, le plus pur, avec plein de guillemets, bien sûr ?
À partir du moment où il y a plein de guillemets, ça répond à la question. C'est une question qui n'a pas de sens.
Mais il y a un mythe autour
de ça. Il y a
un
mythe
qui nous emmène sur les bords de la Loire.
Voilà,
à
je crois. C'est un grammairien anglais qui aurait
anglais
dit ça. Anglais. Au XVIe siècle, ça vous prouve le sérieux de la chose.
Si c'est les Anglais qui décident qui est le français le plus pur, entre guillemets.
Mais ça a été relayé par plein de gens et ça l'est encore son. Je vais vous citer une phrase d'Alfred de Vigny, un de nos grands poètes du 19e, qui disait que c'était là qu'on parlait le français le meilleur, qu'il était sans lenteur, sans vitesse et sans accent. Allez me prouver que l'on parle sans lenteur et sans vitesse, et c'est évidemment impossible, c'est un préjugé total. C'est un préjugé total qui vient du fait que les rois de France passaient évidemment, notamment à la Renaissance, une bonne partie de leur temps sur les bords de Loire, et donc c'est la langue de l'élite. Et comme toujours, l'accent le plus pur, la langue la plus pure, c'est la langue de l'élite. En fait, il y a un combat, c'est une lutte sociale. Je vais presque faire de la politique et du marxisme, mais c'est vrai. L'accent, la langue, ce sont des questions politiques. À partir du moment où chacun a un accent, il faut définir qui a l'accent dit neutre. C'est une bataille. Qui a le pouvoir de dire que l'accent est neutre ? C'est l'élite, notamment l'élite politique, l'élite intellectuelle.
Et c'est le pouvoir central. Et dans un pays centralisé comme la France, c'est Paris.
Évidemment.
D'accord.
Évidemment. Et une fois que vous définissez la norme et que vous dites que la bonne manière de parler, c'est la vôtre, eh bien vous avez accès à des métiers dont les autres sont exclus. Donc c'est une lutte sociale. Et évidemment, ça marche très fortement comme ça. Alors ça a changé au cours de l'histoire. L'accent neutre n'a pas toujours été défini de la même manière, ce qui prouve que c'est subjectif. Et ceux qui en bénéficient ont tendance à prolonger cette croyance.
Alors ça veut dire que les rois de France, ils avaient un accent tourangeau, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire alors ?
Bien sûr, puisque
si on fait un voyage dans le temps.
Quand vous prenez l'histoire de la langue, la langue que l'on parlait historiquement en Île-de-France et sur les bords de Loire était à peu près la même. C'était une langue d'oil et c'était à peu près la même. Ensuite, la vraie différence, elle est sociale. L'accent dit standard que nous utilisons aujourd'hui, on dit souvent c'est l'accent parisien. Ça n'est pas l'accent parisien. Souvenez-vous des films avec Arletty. Arletty, elle ne parlait pas comme vous et moi. Elle parlait comme ça et puis il fait chaud aujourd'hui ou plutôt il fait froid.
Il y avait de la gouaille.
Ça n'est pas cet accent qui a été défini comme la norme.
Ça, c'est l'accent parisien.
Ça, c'est l'accent du peuple. peuple parisien. Oui. L'accent qui a été défini comme standard, ça n'est pas l'accent du peuple, c'est l'accent de l'élite qui veut se distinguer du peuple pour garder le pouvoir. Tout comme aujourd'hui, ça n'est pas l'accent des jeunes de banlieue. Oh, vas-y, c'est pas ça l'accent standard.
Mais l'école,
ça, c'est un accent qui est stigmatisé parce que c'est l'accent d'une partie du peuple. L'accent standard, c'est l'accent de l'élite qui vit dans la ville qui détient le pouvoir à Paris.
Michel Feltin-Palas, on vient de changer le nom et parfois le périmètre de certaines régions de France. Ces nouvelles régions, est-ce qu'elles peuvent changer la donne en matière d'accent? Est-ce que ça redistribue les cartes et les accents?
Non, je ne le crois pas parce qu'on ne change pas la norme. Donc tant qu'on considérera collectivement qu'il y a une manière de parler français qui est meilleure que les autres et que c'est la bonne manière pour devenir avocat, rentrer à HEC ou à l'ENA, etc., ça ne changera pas grand-chose. Tant que les régions ont été découpées un petit peu en dépit du bon sens, pour prendre, je prenais la Nouvelle-Aquitaine, on a mélangé les Deux-Sèvres et le Pays Basque, il n'y a pas les mêmes histoires, pas les mêmes langues régionales qui se parlaient, pas les mêmes accents, donc non, ça ne changera pas grand-chose.
Mais
ce qui peut changer
que
quelque chose,
les...
pardonnez-moi, allez-y. C'est vraiment les médias audiovisuels, puisque je suis sur RTL. Le jour où un certain nombre de présentateurs de grands journaux parleront avec l'accent dans les grandes radios, à la télévision, au journal de 20 heures, les institutions culturelles, c'est la Comédie française, quand on pourra jouer autre chose que Cyrano de Bergerac avec un accent du Sud-Ouest dans un grand rôle, là les choses changeront. Pour l'instant, il n'y a pas de prise. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que c'est une ségrégation de fait, c'est une violence pour les gens, vous savez. Avoir honte de son accent, c'est avoir honte de soi-même. Renoncer à son accent, c'est parfois renoncer à sa famille. Mmh. Je vous assure qu'il y a des travaux dessus, ça engendre des difficultés psychologiques chez certaines personnes.
Oui, parce que on prend l'accent, entre guillemets, normé, l'accent parisien, parce qu'on a trouvé un boulot à Paris et que
moi,
c'est comme ça qu'on
s'intègre. Je ne le reproche à personne.
Bien sûr, on rentre chez soi... En revanche, la famille peut percevoir comme
tu nous as renié. Exactement. Et certains, même à cause de cela, vont dénigrer les accents pour justifier leur propre comportement. Mmh. Ça arrive, cela.
Merci beaucoup, Michel Feltin-Palas. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à l'Express et puis qu'un livre nous a aidé à préparer cette interview.
Vous voulez juste une chose, je voudrais profiter de votre antenne. Je suis à la recherche de témoignages sur cette question.
Allez-y.
Alors,
c'est le bon endroit.
Je vais donner mon adresse internet.
Alors, attendez, il faut que les gens aient le temps de noter.
M comme Michel, F comme France, E comme Emmanuel, L comme Laurent, T comme Thierry, I comme Isabelle, N comme Nicole, mfeltin, @l'express.fr. Si vous avez été victime de ségrégation à cause de votre accent dans une situation professionnelle, votre témoignage m'intéresse.
Et vous pouvez nous appeler au 3210 si vous n'avez pas réussi à noter l'adresse de notre invité.
Et puis ce livre, donc, D'où viennent les accents régionaux, c'est publié aux éditions Le Pommier, signé Philippe Boulan-Mareuil. Merci. Dans un instant, on va vous révéler les secrets d'un métier secret, celui d'espionne. Restez avec nous les curieux sur RTL.